Bien, bonsoir à tous, chers collègues. Permettez-moi, avant de démarrer cette séance, de vous souhaiter à vous tous, personnellement, et à ceux qui vous sont chers, une très belle année 2021, puisque pour certains, c'est la première fois que je vous vois et formuler le vœu que nous puissions, dans ce territoire qui est un territoire de solidarité, porter des politiques publiques qui protègent encore plus les habitants dans le contexte que nous connaissons, et enfin de développer toutes les politiques publiques que nous sommes amenés à gérer. Je vais donc saluer aujourd'hui, en ce jour un peu particulier, aussi la mémoire d'une personne qui a fait beaucoup pour le territoire, notamment pour la ville de Bolène, saluer Monsieur Norbert Carpi. Madame Marie-André Altier, Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Christian Ozas, Monsieur Pierre Avon, Monsieur Jean-Marie Blanc, Madame Marie-Claude Bompard, Madame Sylvie Bonifaci, Madame Françoise Bouclet, Madame Marie Calero, Madame Laure David-Giton, Madame Laurence Desfonds-Fargeon, Monsieur Hervé Flaugère, Monsieur Juan Garcia, Monsieur Jean-Louis Grappin, Monsieur Jean-Marc Garinos, Madame Myriam Gutierrez, Madame Florence Jouve-Lavolée, Monsieur Jean-Pierre Lambertin, Monsieur François Lucas, Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Denis Mossy, Monsieur Christian Perron, Monsieur Joël Racamier, Monsieur Claude Raoux, Madame Cathy Ricard, Madame Bruna Romanini, Monsieur Benoît Sanchez, Madame Anne-Marie Souveton, Madame Virginie Vicente, Monsieur André Vigli, et moi-même. Bien, la première question appelle la nomination du secrétariat de séance. Conformément au Code général des collectivités territoriales, il est proposé à l'Assemblée de désigner son secrétaire de séance. Il est proposé Madame Laurence Desfonds-Fargeon, qui s'abstient, la Ligue du Sud, qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. La question numéro 2, il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance du 15 décembre dernier. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, je soumets aux voix. Qui s'abstient ? La Ligue du Sud, qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 3, il s'agit de l'avis de la communauté de communes sur la modification numéro 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Mornas. Et donc la parole est à Monsieur le Premier vice-président, Monsieur Sanchez.
Oui, merci. Merci, Président. Bonsoir à tous. Oui, donc effectivement, ce rapport numéro 3 est un avis de la communauté de communes sur une modification numéro 1 du PLU de Mornas. Donc cette modification porte sur trois points. Les points sont d'adapter les règles de raccordement du réseau d'eau usée dans les zones UC et UD, et de modifier les obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement en zone UA et de définir dans les zones agricoles et naturelles des règles d'extension d'habitation existantes et de création d'annexes pour ces habitations. Donc je vous passe les vues et les vues d'ailleurs, les considérants. La proposition qui a été faite après validation de la commission aménagement du territoire, c'est effectivement d'émettre un avis favorable, mais avec quelques réserves, plutôt des recommandations sur les points suivants. En fait, si vous voulez, l'histoire du stationnement, c'est de pas limiter les places de stationnement en fonction d'un projet d'aménagement dans l'agglomération. Et on trouvait ça quand même dommage de ne pas user effectivement du fait que quand on crée du logement, on peut obliger par nos règlements d'imposer de la surface de stationnement. Donc voilà, donc nous, la recommandation, effectivement, c'est de ne pas lever ce seuil de place par rapport à l'aménagement qui est fait. On a débattu effectivement sur ce point-là. Donc aujourd'hui, ce qu'on pourrait dire, c'est que la recommandation qui est faite, c'est quand même qu'en fonction du nombre de logements créés et de la surface utilisée, de proposer, que l'aménageur propose effectivement du stationnement. Alors à une époque, quand les PLU n'étaient pas là, et même il y avait de par la loi des possibilités des communes de lever une contribution financière au stationnement. Donc chaque commune pouvez par délibération dire, eh bien, si vous aménagez un logement, la place que vous ne pouvez pas fournir, c'est 3 000 euros, 5 000 euros, 18 000 euros, enfin, chaque commune faisait. Et avec cet argent, dans les 5 ans, vous deviez l'investir dans un périmètre autour de ces logements-là pour faire des places. Donc aujourd'hui, ce n'est plus possible, ça. Et si vous voulez, c'est difficile de contraindre un aménageur à créer du stationnement, si ce n'est par la modification de ce règlement. Ensuite, le deuxième point, c'est effectivement d'adapter les règles de raccordement du réseau d'eau usée en zone UC et UD. Donc là, c'est pareil, la recommandation qu'on pourrait faire, c'est que d'être prudent sur, en fonction de le schéma directeur d'assainissement, d'être prudent sur les zones qu'on ouvre à la construction, parce qu'effectivement, les endroits où l'assainissement individuel est possible. Après, on a des obligations aujourd'hui de raccordement de tous ces terrains dits constructibles. C'est-à-dire que ben, la loi nous impose d'ores et déjà qu'on a mis une zone à la construction dans nos communes de desservir par tous les réseaux, etc. À une époque, un terrain qui était considéré en zone constructible n'était pas considéré constructible s'il n'avait pas tous les réseaux à proximité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc ça aussi impose aux collectivités de nombreux frais d'aménagement. Donc nous, la recommandation qu'on peut faire, c'est soyez prudents dans ce type de modification parce que ça peut vous en coûter. Et le troisième point, c'est de définir dans les zones agricoles et naturelles des règles d'extension et de création d'annexes. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qui vient dans le cadre de l'amélioration dans les zones agricoles et dans la prise en compte des PLU, de la possibilité des habitations agricoles de venir étendre ou créer des annexes ou quelqu'un qui habite déjà, si la famille se développe, la possibilité de pouvoir continuer, je dirais, à habiter son logement, quoi. Voilà. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons-là, je vous propose quand même d'émettre un avis favorable, mais des recommandations sur les points que je viens de vous énumérer.
Merci. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, je soumets aux voix. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 4, toujours, monsieur le Premier vice-président, l'avis de la communauté de communes sur le projet de schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage.
Oui, donc c'est le contexte législatif et réglementaire qui est défini par la loi 2000-614 du 5 juillet 2020 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, qui a été modifié par les décrets et les circulaires, notamment celle du 28 août 2010, qui vise à guider les acteurs concernés dans la conduite et l'évaluation des besoins et la révision des objectifs du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Donc le schéma départemental a été approuvé conjointement par le représentant de l'État et du département le 24 septembre 2012, conformément donc à la loi du 5 juillet 2000, et il doit être révisé au moins tous les 6 ans à compter de sa publication, dont la révision a été engagée depuis le début de l'année 2018. Donc vous avez effectivement tout les détails de la loi NOTRe et des modifications qui ont été apportées au fil du temps. Et la loi du 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage. Donc il y a eu plusieurs, la première phase, plusieurs phases, a été consacrée à l'évaluation du schéma directeur entre 2012 et 2017, un diagnostic, un avis le 17 juillet 2018, et la seconde phase est consacrée à l'élaboration du nouveau schéma et à la rédaction de son contenu. Alors les objectifs à atteindre, c'était au travers d'ateliers territoriaux et thématiques ont été organisés, et c'était 4 ateliers conduits respectivement par les territoires d'Avignon, Carpentras, Apt et la Vallée du Rhône, et 3 ateliers thématiques organisés sur l'accompagnement, l'accès au droit, l'insertion et la domiciliation, la scolarisation et sur l'habitat. Donc je vous passe, mais vous l'avez déjà certainement tous lu, les orientations et les prescriptions et le programme d'action qui a été fait. Donc ce qui est proposé là au travers des considérants, donc c'est que depuis l'approbation du schéma départemental en cours, les hors d'accueil de la commune de Boulen a été réhabilité en 2018. Donc ça, effectivement, c'est un petit peu les choses qui ont été prises en compte. Que parmi les 12 aires d'accueil du département, donc ça, c'est un peu le diagnostic hein, qui ramène ça. Deux sont gérés directement par les EPCI. Voilà. Et du coup, il est proposé d'émettre... Alors, je crois qu'il y avait une question aussi sur les aires de grand passage. Et là-dedans, effectivement, le souhait avait été de pas candidater, je dirais, si on peut le dire comme ça, et qu'elle soit plutôt concentrée sur le centre du département ou la ville-centre, plutôt que d'être déjà en entrant sur notre territoire, par exemple. Voilà, donc là, et le rapport le spécifie. Et donc, il est proposé d'émettre effectivement un avis favorable sur cette question.
Merci. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, je soumets aux voix. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. La question numéro 5, il s'agit de l'avenant numéro 1 relatif à la convention pour l'intégration du site du Marais de l'Île-Vieille dans le réseau des espaces naturels sensibles. Madame la vice-présidente déléguée à l'environnement, c'est à vous.
Merci, Président. C'est le début des économies. On va faire
Vous n'avez pas de micro, pardon.
Un micro pour deux, mais ce n'est pas gênant. Donc, vous avez tous entendu parler, évidemment, de l'espace naturel qu'est l'île Vieille, puisque CCRLP a donc soutenu, au niveau des études et au niveau du financement, ce très beau projet d'espace naturel qui se situe sur Mondragon. Il s'agit ici... de délibérer sur et accepter un avenant à la convention qui nous lie et qui lie la commune au département de Vaucluse. Donc c'est un aspect administratif pour améliorer effectivement et englober donc cet espace naturel dans la compétence GEMAPI. Voilà, il n'y a rien de très... très révolutionnaire derrière tout ça, mais simplement une intégration administrative et une convention tripartite à signer.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. La question suivante, il s'agit de l'approbation de procès-verbaux de mise à disposition des équipements culturels et sportifs de l'APALU. Monsieur Perron, vous avez la parole.
Donc, l'ensemble des conseillers communautaires ont a pu consulter en pièce jointe à la convocation le procès-verbal établi par la ville de la Palu concernant la mise à disposition des équipements culturels et sportifs reconnus d'intérêt communautaire. Donc il ne me semble pas nécessaire de revenir en détail sur son contenu. Cela a été débattu en commission des finances, donc, et qui est la commission des finances donc réunie le 19 janvier 2021, a émis un avis favorable à ce projet. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver le procès-verbal relatif à la mise à disposition des biens de la commune de la Palu dans le cadre du transfert de la compétence construction, aménagement, entretien des équipements sportifs, culturels, retenus d'intérêt communautaire. Monsieur le Président.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Question suivante, il s'agit de l'approbation du procès-verbal, notamment des procès-verbaux, pardon, de mise à disposition des équipements d'enseignement préélémentaire et élémentaire reconnus d'intérêt communautaire pour la commune de La Palu. Monsieur Perron.
Donc, comme à la question précédente, donc, l'ensemble des conseillers communautaires a pu consulter en pièce jointe à la convocation le procès-verbal établi par la ville de La Palu concernant la mise à disposition des équipements d'enseignement préélémentaire et élémentaire reconnus d'intérêt communautaire. Il me semble bon, pas nécessaire de revenir sur l'ensemble et sur le détail de son contenu qui a été débattu en commission des finances. La commission des finances réunie le 19 janvier 2021 a également émis un avis favorable à ce projet, à ce procès verbal. Donc il est proposé donc au Conseil communautaire d'approuver le procès verbal relatif à la mise à disposition des biens de la commune de la Palu dans le cadre du transfert de la compétence construction, aménagement, entretien et gestion des équipements d'enseignement préélémentaire et élémentaire reconnus d'intérêt communautaire. Monsieur le Président.
Merci. Y a-t-il des questions ? Soumis aux voix, qui s'abstient ? La Ligue du Sud qui est contre ? Dossier adopté
à l'unanimité. Question numéro 8, il s'agit d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage à passer avec la commune de Mondragon relative à la création de 30 places de stationnement aux abords du groupe scolaire Jean Moulin. Monsieur Perron.
Donc la commune de Mondragon a réalisé une enquête de mobilité et de sécurité aux abords du groupe scolaire Jean Moulin aux horaires d'entrée et de sortie des écoles. Les résultats de cette étude mettent en évidence la nécessité d'augmenter et sécuriser le stationnement. En conséquence, et considérant que le parking de l'école Jean Moulin relève des compétences communautaires, il est proposé donc de conclure une convention de maîtrise d'ouvrage avec la ville de Mondragon pour créer des places de stationnement aux abords du groupe scolaire Jean Moulin. La participation prévisionnelle de la CCLP est donc de 50 000 euros. Donc, ça a été débattu également en commission des finances qui s'est réunie le 19 janvier 2021 et qui a également mis un avis favorable. Donc, il est proposé au conseil communautaire d'approuver la convention de maîtrise d'ouvrage et d'autoriser le président à la signer.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Merci. La question numéro 9. Il s'agit d'une autorisation à engager, mandater et liquider les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2021. Monsieur Perron.
Donc la délibération 2020-163 du 15 décembre 2020 prévoyait l'ouverture des crédits avant le vote du budget afin de permettre au président de poursuivre l'activité de la CCRLP. Une erreur informatique a entraîné un cumul des montants 2020 erronés et donc des ouvertures pour 2021 également fausses. En conséquence, il est nécessaire de retirer la délibération 2020-163 et de procéder à de nouvelles ouvertures de crédit. Vu l'avis favorable en commission des finances réunie le 19 janvier 2021, il est donc proposé au Conseil communautaire de retirer la délibération des 2020-163 et de valider les nouvelles autorisations, donc soit les montants corrigés pour 2021, chapitre 20, 3 750 euros, chapitre 204, 928 259,75 euros, chapitre 21, 1 224 358,04 euros, au chapitre 23, 1 562 417,09 euros. Monsieur le Président.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. La question suivante, il s'agit de l'avenant numéro 2 à la convention de partenariat entre la CCRLP, Initiative Seuil de Provence, concernant l'aide aux entreprises, le Fonds de solidarité intercommunale. Madame la vice-présidente au développement territorial, vous avez la parole.
Bonsoir. Donc, dès le début de la crise sanitaire, la CCRLP et Initiative Seuil de Provence ont mis en place un partenariat afin d'accompagner et de soutenir les entreprises du territoire qui étaient les plus impactées par la Covid-19. Donc c'est un fonds de solidarité intercommunale qui a ainsi été créé. Il s'agit ici d'adopter un deuxième avenant à cette convention afin de prolonger ce dispositif. Considérant que le fonds de solidarité intercommunale a initialement été mis en œuvre afin de venir en aide aux entreprises du territoire impactées par la crise du coronavirus survenue en début d'année 2020, considérant que suite à la reprise de la propagation de l'épidémie à l'automne 2020 et suite aux mesures gouvernementales imposant un nouveau confinement et par conséquent la fermeture administrative des commerces dits non essentiels, il convient de prolonger et d'adapter les mesures prévues par la convention initiale. Considérant que compte tenu de la prolongation de la période de sollicitation et d'attribution des aides, il convient de prolonger d'autant la durée de gestion du présent fonds, soit pour une durée de 54 mois maximum, à compter de la date de signature de la convention. Considérant que le point de départ du remboursement de l'avance de trésorerie par l'entreprise bénéficiaire est porté au mois de juin 2021 au regard de l'analyse du chiffre d'affaires 2020. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver cet avenant numéro 2 à la convention de partenariat entre la CCRLP et Initiative Seuil de Provence, d'étendre jusqu'au 30 juin 2021 la possibilité pour les entreprises de solliciter les aides du Fonds de solidarité intercommunale, de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet, et enfin d'autoriser le président à signer l'avenant numéro 2 à la convention, donc qui est annexée à la présente note de synthèse.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. La question suivante, il s'agit d'un avenant à la convention de partenariat entre notre collectivité et la Chambre de commerce et de l'industrie. Madame Desfonds-Fargeon.
Donc là, c'est encore un dispositif d'accompagnement des entreprises dans le cadre de la crise sanitaire, mais qui concerne plus spécifiquement le secteur de la boisson et de la restauration. Il s'agit donc d'adopter un avenant à une convention de partenariat entre la CCI, la CCRLP et d'autres parties prenantes dans le cadre de l'opération Les Bons Plans. Considérant que suite à la reprise de l'épidémie à l'automne 2020, de nouvelles mesures de fermeture administrative ont été imposées aux commerces dits non essentiels. Considérant que malgré la réouverture de certains commerces suite à la fin du confinement, les secteurs de la boisson et de la restauration demeurent fermés, à l'instar des mesures prises suite au déconfinement de printemps. Considérant que la plateforme Les Bons Plans Maintenant, qui est donc l'objet de la convention à modifier, vient en aide à ces deux secteurs en leur permettant d'obtenir une trésorerie immédiate via la vente de bons d'achat solidaires que les clients pourront utiliser à la réouverture. Alors, cette convention devait initialement prendre fin au 31 décembre 2020. Il convient donc de la prolonger pour une année supplémentaire avec une prise d'effet rétroactive au 1er janvier 2021. Et il convient également de reprogrammer au budget 2021 les crédits qui n'ont pas été utilisés au cours de l'année 2020, justement du fait de la fermeture de ces commerces. Considérant également la volonté de la CCRLP d'inciter au maximum les débits de boissons et restaurants du territoire à utiliser cette plateforme, il convient d'une part de supprimer le plafond de 315,90 euros alloués par entreprise, qui représente une participation financière de la CCRLP à un maximum de 30 bons d'achat par entreprise. D'instaurer d'autre part une participation financière de la CCRLP à hauteur de 5 euros pour la vente de bons d'achat d'une valeur de 15 euros. Les autres dispositions de la Convention demeurent inchangées. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver les modifications à la Convention de partenariat entre la communauté de communes Rhône-Est-Provence, la Chambre du commerce et de l'industrie de Vaucluse et la Chambre d'agriculture de Vaucluse, de reprogrammer au budget 2021 les crédits non utilisés en 2020 et d'autoriser le président à signer l'avenant ci annexé ainsi que toute pièce résultant de ce partenariat.
Merci. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, je soumets aux voix. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. La question suivante, il s'agit de la convention triennale de partenariat entre notre collectivité et Initiative Seuil de Provence pour la période 2021-2023. Madame Desfonds-Fargeon.
Donc il s'agit effectivement ici d'adopter la convention triennale de partenariat donc, qui lie la CCRLP à Initiative Seuil de Provence et donc pour la période 2021-2023. Considérant que l'association Initiative Seuil de Provence Ardèche Méridionale a pour objet de favoriser la création, la reprise et le développement d'entreprises et par conséquent la création et ou le maintien d'emplois sur le territoire de la CCRLP. Considérant l'existence d'un partenariat de longue date entre Initiative et la CCRLP, considérant que la présente convention triennale actant de ce partenariat a pris fin au 31 décembre 2020, considérant qu'il convient de conclure une nouvelle convention prenant effet au 1er janvier 2021. Il convient également de revaloriser le montant de la cotisation versée par la CCRLP comme suit, 0,68 euros par habitant pour l'année 2021, puis 0,75 euros par habitant pour 2022 et 2023, soit 16 534,88 euros pour la première année, puis 18 237 euros pour les deux années suivantes, sur la base de 24 316 habitants, donc sur le fondement d'une source INSEE. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver les termes de la convention ci-jointe, qui lie donc la CCRLP à Initiative Seuil de Provence Ardèche Méridionale pour une durée de 3 ans, de revaloriser le montant de la cotisation de la CCRLP selon les modalités financières qui viennent d'être invoquées, de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet, et enfin d'autoriser le président à signer la convention qui est jointe en annexe, ainsi que tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier.
Merci. Y a-t-il des questions ? Je soumets aux voix. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. La séance est terminée. La prochaine séance aura lieu le 16 février prochain. Merci à tous et bonne soirée.